On est toujours en direct sur Radio Galère 88.4. Merci à tous ceux qui nous écoutent. On salue encore une fois Aziz pour ce temps d'antenne. Et on remercie Brian de nous avoir prêté la fraternité pour cet événement incroyable. Faites du bruit s'il vous plaît pour Brian et de Marseille à Gaza.
Radio Galère.
On va passer au prochain axe de cette table ronde. Marseille, la fraternité, est-ce que vous m'entendez bien? Ah, je vous entends pas trop, vous m'entendez vraiment bien? Oh Marseille, vous m'entendez ou pas? On occupe la fraternité. Ouh, merci beaucoup. On garde cette énergie-là, s'il vous plaît. On va parler d'armement pour poursuivre le propos de Femmes contre l'armement et Stop Arming Israël. Donc la désenfantisation, elle se fait beaucoup à travers la police et l'armée dans nos territoires, mais même à Gaza, qui s'acharnent contre les jeunes noirs, arabes, étrangers, bref, tout ce que vous pouvez placer dans nom blanc. Donc on l'a vu lors des révoltes de Naël, à quel point l'arsenal policier et militaire a voulu étouffer le cri des quartiers populaires qui se sont soulevés d'une même voix et qui ont voulu exprimer leur mécontentement à minima et surtout leur colère face à ce qui se passait. Et donc dans ce sens-là, on aimerait parler du complexe militaro-industriel qui sévit de l'autre côté de la mer Méditerranée, mais aussi chez nous. Donc je me retourne vers Stop Arming Israël à nouveau, peut-être pour terminer votre propos autour des liens entre l'industrie de l'armement dans nos territoires et les dynamiques coloniales. Donc peut-être un point précis sur Eurolinks avant de parler de l'impact concret sur les populations.
Ouais, c'est bien de savoir déjà que même au-delà de Eurolinks, dans la région PACA, enfin la région PACA représente 70% de l'industrie de l'armement en France, donc on a aussi une grosse responsabilité ici dans nos territoires. Après, par rapport à Eurolinks, je me suis un peu emballé, c'est 17, pardon, mais c'est important quand même pour une région. Ici, à Marseille, on a Eurolinks vraiment dans nos territoires, c'est-à-dire que c'est accessible en bus, en transport, qui envoie des maillons pour souder les armes entre elles, pour tuer les Palestiniens. Donc il y a le massacre de la Farine, il y a un peu plus d'un an, en février 2024, qui était un moment où les Palestiniens et Palestiniennes attendaient pour se ravitailler auprès de camions humanitaires. Et l'armée israélienne a ouvert le feu. Donc il y a eu vraiment énormément de morts. C'était un des pires massacres pendant très longtemps. Malheureusement, l'entité sioniste se surpasse de plus en plus et en ce moment aussi c'est assez sombre. Mais du coup il y a eu une mobilisation contre Eurolinks assez forte qui fait que ça a aussi éveillé l'attention des dockers qui ont récemment empêché une cargaison d'armes qui partaient de Eurolinks qui partaient vers Israël. Donc ouais, on salue leur mobilisation. Et on encourage aussi les dockers à continuer et la société civile à s'emparer de ce sujet.
Merci beaucoup. Baptiste, peut-être une question qui relève un peu de l'anecdote de ce que tu as vécu sur ce bateau. Vous avez été arrêté par l'armée. Et après conduit en prison, est-ce que...
Ils t'entendent pas.
Pardon, vous m'entendez mieux? Donc je vais m'adresser à Baptiste, qui comme je le rappelle, était sur le Madeleine, donc le bateau de la Freedom Flotilla, qui a été arrêté par Israël dans les eaux internationales. Donc je demandais à notre héros local, qui a été donc arrêté par l'armée et amené dans une prison israélienne, si il y avait vraiment, vous avez vu les armes, le complexe militaire, est-ce que la pression, elle était ressentie? Parce qu'on parle beaucoup de ce qu'on envoie, mais est-ce que vous l'avez ressentie en étant là-bas?
Alors, la réponse est oui, mais je commencerai d'abord par dire que merci déjà pour l'invitation, mais surtout, je ne suis pas, nous ne sommes pas les héros. Nous avons simplement suivi l'exemple d'un peuple qui, lui, peut être hissé au rang de héros, qui est un exemple de résilience. Et donc, j'essaye de rappeler ça à chaque fois, ça me semble être hyper important. Oui, en termes de présence armée, nous avons pu constater le fleuron de ce que faisait l'armée israélienne à travers déjà notre arraisonnement, qui est en termes juridiques une arrestation arbitraire, plus qu'un kidnapping qui n'est pas juridiquement le mot valable, mais c'est une arrestation, puis une séquestration, puis une détention arbitraire, avec 10 navires de guerre. Ça a été des Zodiacs, mais ça a été jusqu'à des frégates. La plus grosse faisait, après renseignement, plus de 80 mètres. Et donc les militaires qui sont montés sur le pont de notre bateau et qui en ont pris le commandement étaient armés jusqu'aux dents. Nous rappelons que nous étions 12, profondément pacifiques. Nous avions même jeté les couteaux de cuisine pour vous dire à quel point nous étions pacifiques. On a pu constater un équipement de très haut niveau qui allait donc de ces bateaux, ces armes, aux drones qui nous ont constamment suivis, et ce dès la première nuit de notre expédition. Avant de constater, une fois à terre, une fois que nous avons été débarqués à Ashrod, là aussi un dispositif militaire extrêmement important, plus de 200 militaires ou policiers pour nous accueillir, avec là aussi des moyens techniques très impressionnants, des caméras en tout genre, des scanners, toute une panoplie d'équipements. Sans m'attarder là-dessus, mais les véhicules à terre étaient aussi très nombreux et nous avons tous été transportés dans des véhicules blindés comme si nous étions dangereux une fois complètement démunis de toutes nos affaires.
Merci beaucoup pour ce témoignage. J'ai une question pour refaire le lien quand même avec nos territoires sans penser à des liens économiques ou à des cargaisons qu'on pourrait envoyer là-bas. Je vais commencer à crier. Donc j'aimerais me retourner vers toi, Fatima, à nouveau. Parce qu'on a beaucoup parlé de pays du Nord, pays du Sud. Pour être à peu près clair, quand on parle de pays du Nord, ce sont les anciens empires coloniaux qui colonialisent toujours via l'économie ou la guerre. Et les pays du Sud, ce sont les anciennes colonies, grosso modo. Donc Fatima, en quoi le colonialisme utilise les territoires colonisés et les quartiers populaires comme des champs de laboratoire et d'expérimentation? Est-ce qu'on peut parler de tests, de vidéosurveillance et d'armes sur des populations racisées ici en France ou en Europe qui soit sont dupliquées après en Palestine ou alors à l'inverse, des techniques de là-bas qui sont importées dans nos territoires?
Alors pour répondre à cette question, je vais commencer par dire que on parle depuis le début, on parle souvent de terre au singulier. La terre qui se soulève, libérer la terre, etc. Il me semble important de parler de terre au pluriel parce qu'on protège jamais une terre, la terre. En réalité, dans le processus colonial, ici dans l'Hexagone ou dans le rapport que le Nord global entretient avec le Sud global, en réalité, pendant qu'on ravage une terre, on en protège une, en réalité. Je prends un exemple pour réinscrire mon propos dans l'histoire coloniale. Pendant que la France, en 1830, à travers des personnalités, des artistes comme George Sand, en appelle à la protection de la forêt de Fontainebleau, et donc il y a des textes très lyriques, romantiques, autour de la nécessaire protection de la forêt de Fontainebleau, donc 1830, dans le même temps, on va conquérir et on va spolier la terre africaine. Donc on protège une terre pour mieux ravager une autre. On ravage une terre pour mieux protéger une autre. Ça, c'est important de le dire. Ce qui est important aussi de dire, c'est qu'il y a un besoin de terre. Et alors, j'aimerais citer Frantz Fanon à ce propos qui dit « Pour le peuple colonisé, la valeur la plus essentielle parce que la plus concrète, c'est d'abord la terre. La terre qui doit assurer le pain et bien sûr la dignité. » Donc la terre, c'est « et ». Les terres et une condition de subsistance et une question de dignité, d'égale dignité humaine, de libération. Ça, c'est important pour comprendre pourquoi, ici, l'État, l'État policier, l'État sécuritaire, vise à désancrer la population non blanche, la population musulmane, pourquoi ils visent à la mettre en errance, en fait. Pourquoi ils visent à en faire des sans-terres. Et pour moi, c'est ce qui nous définit, nous, populations non blanches, populations musulmanes qui vivent dans l'Hexagone et qui vivent en Europe, c'est d'être sans terre. Voilà, on n'a pas de terre en fait pour se défendre, pour se protéger, pour assurer et notre subsistance et notre dignité. Je le dis de manière très très concrète ici à Marseille, au regard d'une expérience, d'une lutte qu'on a menée en Seine-Saint-Denis à Bagnolet, le nécessaire combat pour avoir des espaces, des lieux, des petits bouts de terre en réalité. Alors nous, on a peut-être tout à l'heure, je pourrais encore en dire un petit mot, mais nous, on s'est battu pour avoir un petit bout de terre. Voilà, un lieu qui s'appelle le Vert Dragon. On s'est battu corps et âme parce que pour nous, c'était important de prendre de la terre pour dire on est chez nous ici. C'est la terre de nos enfants, c'est la terre où grandissent nos enfants et donc on va aller la récupérer, cette terre-là. Mais c'est important aussi ici à Marseille. Je le dis parce que voilà, je vois ici et là des tiers-lieux où c'est super déjà. Hein. Nous sommes invités à occuper l'espace, à organiser des super rencontres comme aujourd'hui, d'ailleurs sur des propos, sur un segment très radical, comme ici, donc la frate, c'est ça, ce lieu, la fraternité. Ça, c'est déjà bien, en fait, qu'on nous permet de venir occuper un petit bout de terre, mais ce n'est pas suffisant. Ça serait bien de passer la deuxième, de poser ça de manière politique pour dire, nous aussi, on veut nos lieux à nous, en fait. On n'est pas toujours obligé d'aller demander des petits bouts de terre, d'occuper de temps en temps, un jour par-ci, un jour par-là. Nous, on veut la fraternité. On veut rentrer. Oui, alors moi je suis comme ça. Moi on me donne un petit bout. Alors j'ai dit ah c'est super ici. Et ensuite la deuxième minute je dis mais on va le prendre. Oui parce qu'en fait on a besoin. C'est nous qui sommes les cibles en fait de l'extrême droite, du fascisme qui vient. On n'arrête pas de le répéter que ce sont les populations non blanches et les populations musulmanes et les populations migrantes qui seront les principales et les premières victimes de ce fascisme en fait qui vient. Bah, comment on fait? Où est-ce qu'on va s'organiser? Où sont nos maquis? À Marseille ou à Bagnolet. Donc vraiment, voilà, les camarades qui sont ici, qui ont des lieux, qui ont des tiers-lieux, qui les gèrent en notre nom parfois. Des fois, ils sont gentils, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est des méchants. Mais alors, poussez la gentillesse, s'il vous plaît, jusqu'à la question des lieux, de l'appropriation des lieux et la question financière. Voilà, c'est des questions politiques qui sont éminemment importantes. Ça fait partie des conditions matérielles de la nécessaire résistance et de la nécessaire lutte. Sur les dispositifs policiers, c'est pour moi le principal dispositif qui vise à désancrer les populations, c'est effectivement la surveillance dans les quartiers populaires et donc les drones, les caméras de vidéosurveillance, les portiques, la parcellisation des espaces également, ce qu'on appelle la résidentialisation. On n'a jamais autant emmuré en Seine-Saint-Denis que depuis qu'on parle de conséquences du dérèglement climatique, c'est-à-dire que d'un côté on dit dérèglement climatique et donc c'est dans les quartiers populaires là où c'est le plus bétonné qu'on va avoir le plus chaud l'été, le plus froid l'hiver, et dans le même temps on parcellise les espaces, on emmure, on bétonne, etc., etc. Et ça a un objectif politique et idéologique, c'est empêcher toute forme de résistance, empêcher les solidarités, empêcher les agora, empêcher les communautés en fait de s'organiser. C'est vraiment isoler les individus les uns des autres. Et donc oui, il faut se battre contre ces dispositifs policiers que sont certes les drones. Donc ça c'est quelque chose qu'on a en tête quand on parle de dispositifs policiers. Mais vraiment le moindre mur qui est bâti, ce sont des murs de haine. Hein. Les murs qui existent entre les quartiers populaires et les quartiers pavillonnaires sont des murs de haine. Il n'y a pas de raison d'avoir un mur dans un quartier résidentiel pour séparer du quartier des gosses qui vivent dans le quartier populaire. Le moindre mur, il faut l'abattre. En fait. Voilà, quand on pense au soulèvement de la terre, à l'intifada ici, ou au sabotage, etc., il faut qu'on prenne nos petits muscles et qu'on aille abattre ces murs-là aussi. Ça fait pour moi partie du dispositif policier.
C'est extrêmement précieux, merci. C'est extrêmement précieux ce retour d'expérience. Et si on doit retenir une seule chose de cette table ronde, c'est que quand on est ensemble, quand on se mobilise tous ensemble, il y a des choses qui peuvent être faites. Et il ne faut pas hésiter à viser toujours plus haut, parce qu'on peut y arriver en étant tous ensemble. Et j'en viens à m'interroger, c'est le CHO3, pour savoir si dans les questions autour des quartiers populaires du 3e arrondissement, cette idée de contrôle policier, cette idée de différenciation de traitement, elle est présente et est-ce qu'elle, forcément ou pas, elle influence vos luttes et vos combats ?
euh, Là, je dirais que pour rebondir, là où effectivement, dans le quartier, on aurait besoin, par exemple, d'espace à apprendre pour s'organiser, pour résister. Et là, dernièrement, qu'est-ce qu'on nous propose ? Eh bien, une antenne de police municipale qui doit arriver rue Loubon. Et forcément, ça, en matière de personnes qui sont armées, qui ont le droit d'utiliser leurs armes, sur le quartier, c'est compliqué. Et là, je donnerai plus la parole à mes camarades pour justement, c'est quoi, nous, ce qu'on aimerait comme espace pour s'organiser et qu'en réalité, on n'a pas besoin de cette antenne de police. C'est pas là-dessus qu'on se donne de la force et qu'on peut changer aussi les choses.
Oui. Ah, mais c'est pas bien. Oui, comme vous le savez, le CH3 c'est souvent contre les injustices, vécues par les habitants du 3e arrondissement. Pour ça, on a essayé collectivement de créer les liens entre nous et entre les habitants pour défendre leurs droits. Et pour ça, on a besoin d'un espace pour se mobiliser, pour se réunir régulièrement, pour avoir notre droit comme des étrangères sur le trottoir français. Et malgré, on n'a pas de lieu, mais on a essayé d'une autre façon pour créer notre propre ressource, notre solidarité entre nous, à travers de créer des groupes féminin entre des femmes qui cuisinent, qui allaient vers les paysans pour récolter des produits et transfèrent ces produits-là pour gagner un peu d'argent, pour aider les gens qui sont en ressources. On a commencé par 0 €. En 2020, on se trouvait, nous des femmes étrangères, sans ressources, sans travail, il n'y a personne qui nous aidait. Même on a fait la porte vers les grandes structures du 3e. Tant que vous n'avez pas des papiers, vous n'avez pas de ressources, il n'y a pas de. Grâce à CH3 et les structures qui soutenaient le CH3, on a essayé de créer nos propres ressources. Donc à ce moment-là, on a 58 femmes qui cuisinent suivant et répondent sur les repas de CH3. Grâce à cette trace-là, on arrive de créer une caisse de solidarité qui ça permet tous les habitants de cette 3e qui sont en ressources de toc-toquer sur la porte et d'avoir un peu d'argent pour gérer leur vie. Donc, à ce moment-là, on est comme un exemple pour les autres collectifs. À partir du CH3, après de 22, il y a plusieurs collectifs qui s'est créé qu'est-ce qu'il a fait CH3 comme une victoire. Par exemple, l'RTM, par rapport aux autres villes de France, ils ont la réduction de 50% pour les sans-papiers. Et à Marseille, il n'y a plus. À partir du 21, on arrive, il y a un groupe qui s'est mobilisé, s'est formé pour se battre, pour avoir cette réduction. Et maintenant, la plupart des sans-papiers, ils sont en avoir d'avoir cette réduction. On est fiers de faire ça, on est fiers de...
Bravo. C'est incroyable, bravo.
On a essayé aussi de créer un groupe pour compte pour tout le monde. Parce que chacun ou chacune, il a le droit d'avoir un compte bancaire. On a essayé de faire ça et grâce à cette groupe, il y a beaucoup de monde sur Marseille qui ont un compte bancaire, même dans une situation irrégulière. On a essayé d'être solidarité, on a essayé de chercher les solutions en groupe. On a essayé de mettre la main dans la main pour trouver notre vie et trouver des solutions pour nous-mêmes ou pour tous les habitants qui sont autour de nous. Voilà.
Merci beaucoup, c'est incroyable. Comme vous le voyez, on commence par parler d'armement et on en arrive à la notion de déshumanisation, que ce soit en Palestine, dans tous les territoires occupés, mais aussi dans nos territoires, quand il s'agit de non-blancs, et donc une différence de traitement qui va de la police, des contrôles, mais aussi des droits qui ne sont plus du tout accordés. Je vous remercie pour ce partage d'expériences très riche et très utile. Et j'espère qu'on va tous vouloir dupliquer ça dans des domaines différents. Avant de passer à la suite, encore un artiste algérien. Coucou Aziz, j'espère que tu m'écoutes. Donc la prochaine pause musicale, ce sera Tiff. Et ce sera Nothing Personal. Et on se retrouve dans quelques instants, toujours sur Radio Galère 88.4. À tout de suite.